Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Natacha Valla, doyenne de l'école de management et de l'innovation de Sciences Po et présidente du Conseil national de la productivité qui a coécrit le futur de la monnaie chez Odile Jacob. Ah, j'aimerais bien connaître le futur de la monnaie. Vous savez que je ne vous lâcherai pas avec l'histoire des devises numériques Banque Centrale. Moi, un jour, je veux comprendre à quoi ça sert.
Bon, une émission.
On fera une émission de 6 heures pour comprendre pourquoi on va faire un euro numérique. Stéphane Carcillo, responsable de la division revenu travail de l'OCDE, professeur associé à Sciences Po. Vous êtes bien professeur associé à Sciences Po, hein? Oui. Parce que parfois j'oublie de corriger ce que me disent mes invités. Et membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission. L'occasion de vous dire d'ailleurs que ça y est, demain nous serons en direct de Aix en Provence pour les rencontres économiques organisées par le Cercle. Une partie de la matinale de Good Morning Business se déroulera là-bas. D'ailleurs j'y serai avec Christophe Jacubizine. Et cette émission entre 9h et 10h recevra deux membres du Cercle notamment. Depuis Aix, il y aura très certainement d'autres moments de l'antenne, notamment le grand journal de Guillaume Paul qui s'y déroulera également. Gaël Sliman pour le baromètre Odoxa, Abeille Assurance, Challenge, BFM Business consacré à la richesse ce mois-ci. Alors, elle a été très claire, Elisabeth Borne, même si ce n'était pas évident de réussir à en placer une au milieu des sifflets de la partie gauche de l'hémicycle. On n'est pas figé sur la réforme des retraites, sous-entendu 64, 65, on verra, durée de cotisation, on verra, agenda de mise en place de la réforme, on verra, mais elle est indispensable. Indispensable. D'ailleurs, le corps a repoussé la publication de ses derniers scénarios de retraite. On verra ce que ça donne. Si je vous dis qu'elle est indispensable, Stéphane Carcillo, vous me dites oui, elle est indispensable. Ou non, on peut attendre et puis voilà. Je ne sais pas.
Écoutez, pour moi, personnellement, quand je regarde les projections du corps, je ne crois pas trop à ces projections.
Personne n'y croit jamais à ces projections.
Notamment les projections de qui s'appuient sur des taux de croissance qui ne sont pas très, très réalistes pour les années qui viennent. Donc moi, je pense que c'est un enjeu majeur financier, d'abord, parce que c'est 350 milliards, je crois, d'euros de dépenses. Donc, effectivement, quand on regarde où sont les sources de réduction de la dette et des déficits, bah, c'est un des postes clés.
C'est le poste clé
avec la santé. Mais la santé, on a beaucoup moins de marge de manœuvre parce que la population vieillit, parce que les technologies coûtent de plus en plus cher.
Donc
les retraites, c'est vraiment un poste absolument majeur. Et je crois que c'est un enjeu très important dans le contexte où on a des dépenses publiques. Pour moi, l'enjeu, c'est pas véritablement de se demander si on doit baisser les dépenses publiques, c'est de se demander quelles sont les priorités pour les années qui viennent. Oui. Quelles sont les priorités pour les années qui viennent pour préparer notre société, notre économie aux défis de demain? Et il y a évidemment le changement climatique qui vont demander des dépenses importantes d'adaptation, d'accompagnement des entreprises, des communes et des collectivités locales. Il y a évidemment le changement technologique qui exige de revoir notre système d'éducation avec en plus une situation de départ en France qui est en fait assez handicapée quand on regarde les enquêtes sur les performances des jeunes, que ce soit dans le primaire ou ensuite au collège, la France décroche. Donc on a un système vraiment éducatif qu'il faut revoir. Et là, on voit bien que c'est à la fois une question de méthode, mais aussi une question de moyens, notamment dans les petites classes. Donc je pense que là, il y a aussi de l'argent à mettre dans ces politiques-là. Et donc pour libérer ces marges de manœuvre sur le changement climatique, sur l'éducation, aussi pour continuer l'adaptation du système de santé, il va falloir réformer les retraites et travailler plus longtemps, augmenter le taux d'emploi, c'est-à-dire la seule manière de pouvoir dégager ces richesses et c'est qu'il y ait plus de personnes dans l'emploi. Et pour qu'il y ait plus de personnes dans l'emploi, il y a deux sujets, il y a l'insertion des jeunes et il y a le taux d'emploi des personnes âgées qui dépend, facteur numéro un, qui cadre tout, c'est l'âge de départ.
La borne d'âge
de la retraite.
Donc vous me dites que parmi les éléments de réforme, il faudrait quand même oser toucher à cette borne d'âge.
Alors,
parce qu'elle donne le signal d'un déplacement tectonique de la population
active. Voilà, il y a plusieurs manières de faire. On voit bien la durée de cotisation qui n'a
pas forcément d'âge. Mais ce n'est pas la borne d'âge, la durée de cotisation.
La borne d'âge, elle a un avantage, c'est qu'en fait, elle cadre les anticipations et elle les coordonne entre entreprises et salariés. Ouais. C'est-à-dire que d'un seul coup, on sait que l'âge moyen, c'est
comme l'anticipation d'inflation.
C'est plus 62, c'est 64.
Ouais, mais c'est ça.
Et pourquoi c'est important? C'est important parce que lorsque on embauche quelqu'un, par exemple, à 45 ans, ou à 50 ans, on se dit qu'on l'embauche pas pour 10 ans, mais potentiellement pour 15 ans.
Eh ben oui.
Et ça, ça change l'investissement qu'on met dans cette personne.
Bien sûr, bien sûr.
En termes de formation, de capacité à rester dans l'entreprise, de mobilité de poste. Et quand on est un salarié aussi, savoir que finalement, bah, la fin d'activité, c'est plus 62, mais c'est 64 ou 65, ça change aussi la manière dont on s'investit. Dans l'emploi, dont on se demande ce qu'on va faire dans les trois années qui viennent, si on va pas changer de poste, etc. Plus on se rapproche de la date limite, moins on a envie d'investir dans un changement majeur.
Ce que vous dites, Stéphane, est essentiel. Ça apporte des éléments de réponse d'économistes à cette réaction naturelle de beaucoup de nos auditeurs, téléspectateurs, qui disent oui, c'est bien beau de bouger l'âge de la retraite, mais si vous êtes Kleenex à 58 ans, ça ne sert à rien. Et en fait, il y a ce phénomène de mouvement global du marché du travail qui se fixe par anticipation sur l'âge légal de départ. Du coup, oui, alors vous, encore un mot, Stéphane.
Non, juste un mot pour dire simplement qu'il faut aussi l'accompagner par des mesures qui facilitent le maintien dans l'emploi des seniors, notamment en matière.
Je ne sais pas lesquelles, là.
Il y a plein de choses à voir. Il y a évidemment les mesures d'incitation d'embauche des seniors qui sont au chômage, mais il y a aussi, surtout, et beaucoup, les mesures de formation et d'accompagnement des carrières. Mais ça, évidemment, il faut le faire en parallèle, c'est absolument indispensable.
J'ai une réaction, celle de Jean qui me dit « Et si on sous-indexait les pensions supérieures à 2000 euros ?» Ou encore Guigui, « Les retraites, c'est comme le problème de la baignoire, elle se vide plus vite qu'elle ne se remplit, il faut donc passer à la capitalisation. » Ça, c'est un autre dossier, la capitalisation. Oui, Natacha Valla, peut-être, et Gaël Siman, avant de parler des riches.
Ça a été tellement bien dit.
C'est limpide.
Je pense qu'effectivement, il y a une complémentarité entre la réforme des retraites, le positionnement des seniors dans le monde du travail et le système éducatif dans son ensemble. Moi, quand je vois qu'à l'université, par exemple, on propose... On est entre deux eaux, c'est-à-dire qu'on propose des formations en master pour une formation dite initiale, et puis après on va faire de la formation, comme on appelle ça en français, de l'executive education, de la formation professionnelle, dont le format n'est pas bien défini, qui est qualifiante sans être diplômante, qui permet d'avoir un peu plus de compétences, mais pas forcément plus de mobilité. Donc je pense que moi, cette vision... un peu à l'emporte-pièce en dichotomisant les offres éducatives qu'on peut donner, on doit la laisser derrière nous. Pourquoi ? Parce que cet accès à l'éducation, il doit être fluide, continu, et il ne doit pas décliner en fonction de l'âge, exactement pour les raisons qui ont été évoquées. Donc la réforme des retraites, elle doit s'appuyer aussi sur une façon un mieux vivre au travail, une meilleure adéquation au travail, qui est aussi une meilleure adéquation à la vie en société. C'est un deuxième aspect.
Je pense, oui. Alors, allez-y, continuez, oui.
Pour terminer, ce qui a été dit, ça montre que finalement, cette réflexion-là, elle est liée à la qualité de la dépense publique. Et quand on dit qualité sur quantité, c'est pas un concept pur, c'est quelque chose de très concret. Et si on commence par définir la priorité des dépenses publiques en fonction de sa qualité, ça permet aussi de se dire, bah, finalement, à budget donné, à contraintes budgétaires données, il faut savoir faire des choix. Et sans oublier que quand même, on a un stock de dette publique assez important.
Sympathie.
On a des circonstances de marché qui vont évoluer
j'aime toujours le sens de la litote de Natacha Valla quand elle parle des circonstances de marché qui vont évoluer.
Il
regarde ça comme un incendie en puissance.
Hein, il faut être très vigilant par rapport à ça.
Gaël, la question après, Stéphane, c'est que j'ai l'impression que le problème le plus difficile, c'est pas vraiment l'histoire de garder les vieux, mais c'est de faire rentrer les jeunes plus tôt. Et là, c'est peut-être plus compliqué. Gaël Siman.
Alors, en rebond sur ce que disait Stéphane, qui est très intéressant, puisqu'il explique pourquoi les pouvoirs publics situent dans l'équation, hein, dans les trois paramètres, la borne d'âge comme étant un élément central. Un mot sur comment c'est reçu par l'opinion, par
mal.
Les Français. Pas mal, extraordinairement mal. C'est l'injustice ultime. C'est-à-dire que c'est le sujet le plus éruptif, sur lequel ils sont le plus mécontents. Les deux tiers des Français sont opposés à l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite.
Deux tiers.
Et c'est structurel. Et plus en plus on est catégorie populaire, et plus on y est opposé, mais tout le monde y est opposé. Et un des paramètres, peut-être, parce que ce sera compliqué d'expliquer ce que vient de dire Stéphane, de manière répétée à tout le monde, mais un des paramètres qui nous est objecté dans les enquêtes, parce qu'ils n'ont pas eu cette explication, c'est de nous dire, mais pourquoi vous ne jouez pas sur la durée de cotisation ? Parce que ça embête tout le monde, pour ne pas être plus trivial, de devoir travailler plus longtemps, ou presque tout le monde. Mais ce qui semble extrêmement injuste, c'est de se dire, mais alors ça veut dire que le gars qui a commencé à travailler à 20 ans, il va devoir travailler, si on met la retraite à 65 ans, il va devoir cotiser pendant 45 ans. En général, il fait un travail plus pénible, même si ça peut ne pas rentrer dans les critères de pénibilité de classification, moins bien payé, il est plus pauvre et il a une espérance de vie moins longue. Et il va travailler 45 ans.
Ça fait
et
partie celui... des éléments non figés, ça.
Non, et celui, je vous cite juste la manière.
Oui.
Et celui qui a commencé à travailler à 27 ans, comme ça peut arriver aujourd'hui, parce qu'il a fait des études supérieures, qu'il est allé aux États-Unis, qu'il a. Bon. Celui qui a commencé à travailler à 27 ans, donc il va cotiser 7 années de moins. Ça, ce schéma-là, il est très présent dans l'esprit des gens et il rend le sujet.
Il cotisera au moins 43, hein.
Non mais,
okay, oui,
mais si vous voulez, quand voilà. Vous parlez d'âge légal, oui, il faut avoir conscience que c'est la rue immédiatement. C'est-à-dire que vous avez immédiatement, il y a peu de doute là-dessus, des manifestations, des blocages qui seront organisés, surtout que Emmanuel Macron n'a pas la majorité pour le faire.
Oui, les jeunes, Stéphane.
Les jeunes.
Non,
c'est
vrai qu'il a.
Mais c'est totalement vrai.
C'est vrai qu'il n'a pas la majorité pour le faire. Mais si on s'appuie sur les propositions des Républicains.
Alors voilà,
là, pour le coup, il y a une majorité.
Alors c'est vrai,
pour le faire.
Il pourrait le faire avec LR, mais le problème, c'est qu'il a tout le reste de l'Assemblée, donc les RN et les NUPES, donc la gauche et l'extrême droite, qui sont contre, et les Français qui ont le sentiment d'avoir voté exprès contre, parce que c'est vraiment la raison qui explique pourquoi il n'a pas sa majorité, c'est qu'ils ont voté contre la réforme des retraites. Sinon, il aurait été élu plus largement au second tour et il aurait une majorité absolue. Mais il a mis ça sur le tapis juste avant la présidentielle, Emmanuel Macron. C'est le seul sujet qu'il a mis sur le tapis et ça l'a flingué au niveau des législatives.
Même Draghi a réussi à passer une réforme des retraites en Italie. On a l'impression qu'on est le seul pays qui s'arc-boute à la non-réforme.
Il y en a eu plusieurs des réformes des retraites en France.
Oui, mais alors la plupart, elles sont faites pour ne. Enfin, c'est des réformes qui ne se voient pas. Quand vous sous-indexez ou désindexez les pensions, c'est le truc qui est fait.
Mais sur l'âge légal, il y en a eu déjà.
Oui, il y a eu la Fillon.
Il y a eu Fillon.
La Fillon qui fait qu'on n'est pas à 18 points de PIB de dépenses, mais 14 aujourd'hui. Si on ne l'avait pas faite, ce serait juste une cata. Et puis il y a eu la Marisol Touraine. Si je dis ça, les gens, ils ont oublié qu'on a allonge actuellement la durée de cotisation à 43 ans à horizon 2035.
Mais ça passe mieux, l'allongement de la durée de cotisation.
Oui, mais comme on voyait avec Stéphane, la borne d'âge, c'est comme l'anticipation d'inflation. C'est la même logique, en fait. Elle va vous emmener le paquebot. Les jeunes, comment le taux de... On a à peu près les mêmes défauts de taux d'emploi chez les jeunes en France que chez les vieux par rapport aux autres pays de l'OCDE.
Oui, c'est ce qui explique, c'est ce qui explique l'essentiel de l'écart du taux d'emploi global de la France avec des autres pays qui ont des taux d'emploi un peu plus forts.
Il nous faudrait 10 points de plus, on est à 67%.
Voilà. Alors, chez les jeunes, le problème est bien identifié. Il y a un problème à la fois à l'université et ensuite dans les niveaux d'éducation inférieure, au lycée, au collège. Si on prend le lycée et le collège, l'essentiel du problème aujourd'hui, ce sont à la fois les jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme.
On a fait
des progrès dans ce domaine, parce qu'on a créé des plateformes, mais on est encore un peu loin des modèles vraiment qui se débrouillent très très bien dans ce domaine, parce qu'on récupère les jeunes après leur échec au lycée et au collège, et c'est très dur de les faire revenir dans n'importe quel programme.
C'est le contrat d'engagement jeune là, qui a été lancé pour ça.
Voilà, justement. En fait, ce qu'il faudrait, c'est tout de suite, au sein de l'école, les identifier, leur proposer tout de suite, avant qu'ils disparaissent dans la nature pendant plusieurs mois, leur proposer une voie alternative. Ça, c'est vraiment l'enjeu. Et pour ça, il faudrait que l'école s'ouvre un petit peu sur les autres opportunités de formation, les autres modes d'éducation, les autres opportunités peut-être d'emploi pour ceux qui veulent travailler tout de suite ou aller dans un apprentissage, et que du coup l'éducation nationale se décloisonne un petit peu.
C'est ça,
c'est le premier sujet.
Beaucoup disent qu'effectivement il faut recréer du lien.
Voilà. Deuxième sujet, ceux qui veulent aller dans des formations professionnelles, au lycée professionnel, on a un sujet, pour le coup c'est dans le programme d'Emmanuel Macron et du gouvernement, de la réforme des lycées professionnels, qui aujourd'hui n'ont pas des taux d'insertion suffisants, notamment lorsqu'on les compare à l'apprentissage. Et donc il y a un gros sujet, c'est un gros sujet, parce que c'est énormément d'enseignants, c'est énormément de lycées, et c'est énormément de jeunes. Et du coup, parmi tous ces jeunes qui n'ont pas vocation, qui ne veulent pas aller à l'université, qui veulent travailler tout de suite, ou rapidement, il y en a une grosse partie qui s'insère très très difficilement, parce que les formations proposées dans les lycées professionnels ne sont pas suffisamment proches des besoins des entreprises. Donc, gros sujet là-dessus. Et enfin, à l'université, il y a...
Chez Natacha.
Oui, enfin.
Oui, non, non,
mais. Pas particulièrement à Sciences Po, je dois dire, mais dans le gros des bataillons des universités, il y a le sujet, évidemment, du rapprochement des programmes universitaires, là aussi, avec les entreprises locales, avec le tissu local d'entreprises, identifier les besoins, rapprocher les enseignements aussi des tout simplement des personnes qui travaillent dans les entreprises, les faire venir, tout ce que font les grandes écoles et que ne font pas les universités. Et pour ça, il faut laisser beaucoup plus de marge de manœuvre aux universités pour s'organiser comme elles le souhaitent, y compris créer des chaires avec les entreprises, récupérer des financements de la part des entreprises, créer un tissu dans lequel l'université est ancrée localement dans son tissu économique aussi et répond à ses besoins. Dans les régions, dans les villes, avoir des bonnes universités, c'est une très grande chance, mais il faut resserrer les liens avec les entreprises pour améliorer au final le taux d'insertion des jeunes.
C'est bien, avec Stéphane Carcillon, on a comment faire mode d'emploi. Voilà. Il n'y a plus qu'à se servir.
Non, il n'y a pas comment faire. Il y a le point d'arrivée. Oui. Faire, c'est très compliqué. C'est l'art de la politique. Alors là, donc c'est très compliqué.
Stéphane, le truc, c'est que j'entends très bien ce que vous dites et c'est encore une fois d'une parfaite limpidité. Je crains que ça prenne du temps. Je crains que tous ces éléments de ces créations de liens, cet écosystème quasi intellectuel entre ces différents mondes, ce soit long à installer. L'amélioration derrière, des compétences, ça se fait pas en deux ans à l'école. Million et demi de NIC, il est là.
Il y a la question de l'autonomie des établissements qui est essentielle. Pour l'agilité, pour développer des nouveaux programmes qui soient plus adaptés à la réalité, il faut qu'on se sorte de systèmes où il faut deux ans pour mettre en place un nouveau programme, même si c'est un programme test, etc.
Voilà.
Parce qu'on manque, avec ce manque de réactivité-là, il y a des victimes dans l'intervalle. Il y a quand même des jeunes qui sortent sur le marché du travail tous les ans. Et s'ils n'ont pas leur job tout de suite, ils l'ont 6 mois après, ils l'ont 1 an après, c'est du temps de perdu. Et c'est du temps de perdu qui peut aussi avoir un effet de cliquet sur la carrière derrière. Enfin, vous le savez mieux que moi. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel. Mais je concours complètement dans l'idée de dire plus les liens avec l'entreprise sont étroits, plus facile l'intégration professionnelle est. Ça, on le voit très bien au niveau des stages. On le voit encore mieux au niveau de l'apprentissage. L'apprentissage progresse très fort dans des formations de pointe. Nous master en finance, en apprentissage, ça sera. Voilà.
Et l'autonomie, elle est hyper importante à la fois à l'université, mais aussi dans les niveaux inférieurs d'éducation. C'est pour ça que le projet d'autonomie des écoles, notamment des chefs d'établissement, qui n'est pas vraiment une autonomie, mais une sorte de libération des capacités de gestion de l'école, du choix pédagogique, du choix des enseignants, etc. C'est hyper important, pour pouvoir s'adapter aux problèmes locaux qu'on a.
C'est un élément qu'on retrouve dans tous les pays bien classés dans PISA. Il y a l'autonomie des chefs d'établissement, la liberté de recrutement, une forme de liberté sur les enseignements. Enfin, voilà.
Et il faut sortir de ce système français qui est vraiment un carcan. Un carcan dans le système éducatif à tous les niveaux. Il y a un énorme carcan. Il faut vraiment sortir de ce système qui paralyse complètement.
Et j'ajouterais, si encore le résultat était là, mais effectivement, les résultats PISA, on est dans un état de constat qui nous oblige, vraiment. Je pense que là, il y a
à changer de méthode.
Oui.
Le baromètre Odoxa Abeille Assurance, Challenge BFM Business à l'occasion du numéro spécial d'été de Challenge, consacré comme tous les ans aux grandes fortunes de France. Gaël Slimane, ça tourne autour de la richesse sous toutes ses coutures.
Oui, c'est quoi un riche? Alors, on pose souvent cette question.
4 000 euros avait dit François Hollande.
Alors, mais il était juste. Il était juste à l'époque, à peu de choses près. Un riche, c'est pas quelqu'un qui est si riche que ça. Un riche, quand on pose la question aux Français, qu'on leur demande où situez-vous le niveau de richesse, et techniquement, c'est une question ouverte. Donc chacun me met le montant qu'il souhaite. Hein.
D'accord.
Il situe le niveau de richesse en médiane à 5 000 euros par mois aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est assez constant, 5 000 euros net, et on est assez constant depuis une. Vous voyez, on a commencé ce petit jeu en 2006, donc ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années qu'on tourne autour de ces seuils-là en termes de médiane. Chose intéressante, on a baissé le niveau de richesse, et ce sera pareil sur le patrimoine, par rapport à l'année dernière, par rapport à 2020, il y a deux ans. Donc depuis deux ans, on situe la richesse un petit peu plus bas, mais globalement c'est toujours dans le même étiage. Et c'est quoi un riche en patrimoine? Puisqu'il y a la question du revenu, mais il y a la question du patrimoine. Eh bien un riche en patrimoine, c'est quelqu'un qui se situe en médiane à 500 000 euros de patrimoine. Et là aussi, on aurait pu imaginer que pour les Français, on puisse situer des grandes fortunes. Et en fait, quand on regarde une chose intéressante, et là aussi ça n'a pas évolué dans le temps, une fois ça a évolué en 2011, Nicolas Sarkozy avait changé les règles du jeu concernant l'intégration de la résidence principale dans le calcul de l'ISF. Et on avait beaucoup parlé de cela à ce moment-là. On était passé de 800 000 euros, je crois, à 1,3 million. Enfin,
pour le déclenchement.
Pour le déclenchement. Et du coup, là, les gens s'étaient dit, ah ben non, en patrimoine, c'est peut-être à 1 million qu'on est riche. Ah, mais sinon, tout le reste du temps...
Phénomène d'actu, ça.
Phénomène d'actu. Sinon, tout le reste du temps, on est à 500 000 euros. La chose qui est amusante, c'est que le riche, en fait, c'est le voisin qui habite juste en face
c'est
de chez soi.
C'est toujours ce qu'on dit, ça. Mais...
Et qui gagne... Ben, si,
oui, qui savez, gagne attendez, deux fois attendez, ce que je gagne. Enfin, voilà.
C'est ça. C'est que mécaniquement, quand on prend les tranches de revenus des Français et qu'on regarde leurs réponses, ils situent la richesse à chaque fois, en gros, à x2 par rapport à leur propre richesse.
D'accord. Oui.
Donc c'est ça qui est assez amusant sur le riche. Et après, dans notre numéro, on a aussi testé des questions d'image et on observe que le riche en France, il y a un petit problème parce que on nous dit que c'est une bonne chose de voir gagner de l'argent et de devenir riche. Les 7 Français sur 10 le pensent. Mais on nous dit en même temps que c'est pas du tout un objectif qu'on s'est fixé soi-même, pourquoi pas, et que les riches sont mal perçus dans notre pays. Plus de 80% des Français le pensent, et eux-mêmes sont une petite majorité à dire, vous avez cité François Hollande, hein, il avait dit ça aussi, j'aime pas les riches. Eh bien, les Français sont une petite majorité à nous le dire eux aussi.
Ouais, moi, il y a un truc qui m'a frappé dans les questions qui ont été posées, c'est est-ce que je vis mieux que mes parents ?
Alors ça, c'est plus la richesse.
Je suis un peu tombé de ma chaise.
Alors là, c'est plus la richesse.
Parce que c'est la promesse du capitalisme, hein, tu vivras mieux que tes parents quand même. Et ben là, on se rend compte qu'il est de moins en moins tenu.
C'est la promesse humaniste un petit peu aussi plus globalement. C'est l'idée que demain sera meilleur qu'hier. Et on l'a beaucoup dit, vous savez. Que chez les Français, il y avait ce sentiment de déclassement, ce grand déclin qu'on vivrait. C'est vrai sur plein d'indicateurs, mais sur cet indicateur-là, quand on posait cette question il y a 20 ans, on avait une large majorité de Français qui nous disaient que leur situation sociale était meilleure au même âge que celle de leurs parents. Il y a 20 ans, on pensait ça. Aujourd'hui, ça s'est retourné, et si on met de côté les gens qui sont dans l'indécision ou qui sont instables, on a une nette majorité de Français qui nous dit « ma situation, elle est moins bonne que celle de mes parents ». Ça veut dire que l'ascenseur social, c'est pas qu'il est en panne ou qu'il est bloqué, c'est que dans la perception collective, il a dégringolé quelques étages. Et ça, ce sentiment de grand déclin, de déclassement, il est extrêmement préoccupant. Et ça ne vous étonnera pas, il est particulièrement marqué chez les catégories populaires, les personnes qui habitent en France périurbaine, etc.
Oui, mais ce déclassement qui est révélé par cette question, ça va aussi effectivement avec la manière dont les urnes parlent progressivement.
Eh bien, bien sûr.
Oui, c'est là où c'est un vrai sujet. Il y a quelqu'un qui m'écrit, il faut arrêter de taper sur le pupitre. C'est Marie Jet.
Alors,
Marie,
c'est peut-être moi. Je vais arrêter.
Non, il ne faut pas taper sur le
pupitre. Oui, parce que ça fait mal.
Bon, il nous reste... Je voulais dire un mot sur les riches, ça vous inspire une réaction. Sinon, je fais un peu de parité euro-dollar, histoire de faire de la bonne grosse économie.
Au nom du riche.
Non, mais rapidement, moi, je trouve que c'est très intéressant ce sondage, parce qu'effectivement, d'abord, sur le... à quel niveau de revenus on est riche, les Français sont finalement assez... 5 000 euros, c'est à peine 10% des salariés qui gagnent 5 000 euros. Donc, faut savoir que le salaire médian en France, c'est net, c'est 2 000 euros. Le moyen, c'est 2 500 euros. Ouais. Donc, à 5 000 euros...
On est à 2 000 en médian.
On est en 2 000 en médian, maintenant.
Ah, 2 000 en médian. Et à 1940.
Mais... Voilà. Et donc, en fait, à 5 000 euros, on ne concerne plus que, je pense, 7-8%. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on fixe ce... C'est pas totalement ahurissant, c'est plutôt assez proche. Là, ce qui est plus étonnant, c'est l'effet comparatif par rapport à ses parents. Parce que là, on s'évalue, on sait que les gens se mesurent par rapport essentiellement aux autres, surtout lorsqu'il concerne leur bien-être et leur satisfaction avec leur situation actuelle. De manière objective, on vit, en fait, beaucoup mieux que nos parents. La productivité a quand même monté. Le niveau de vie a monté par rapport à nos parents. On le voit tous les jours autour de nous, dans les services qu'on est capable d'acheter, dans la qualité de notre électroménager, dans la qualité de nos ordinateurs. Tous les biens sont montés en gamme et en puissance.
Mais le niveau d'exigence aussi.
Le niveau d'exigence aussi. Et surtout, mais ce qui se passe, c'est pas ça. Les gens ne voient pas du tout ça. Les gens comparent même pas véritablement leurs revenus et leur pouvoir d'achat, et comparent leur situation personnelle. Et le phénomène qu'on a aujourd'hui, c'est deux choses. C'est d'une part que le système de progression dans l'éducation commence à stagner. Pourquoi ? Parce que tout simplement, beaucoup de gens sont arrivés au niveau des études supérieures au niveau de l'université. Donc maintenant, on a des tranches de population au niveau de l'université qui ne progressent plus beaucoup parce qu'en fait, elles ont énormément progressé et qu'aujourd'hui, on est dans une phase de stabilisation. Donc, par rapport à nos parents, nous, on ne fait pas des études bien meilleure, enfin beaucoup moins qu'à 20 ans ou qu'à 30 ou 40 ans. Donc on a ce phénomène de rattrapage qui maintenant s'arrête. Et ça, c'est le à mon avis un point extrêmement extrêmement important. Et d'autre part, les transformations du marché du travail. On avait encore un emploi industriel il y a 20 ou 30 ans qui s'est érodé. C'était des emplois plutôt stables et très bien payés avec des revenus médians. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont dans les systèmes d'emploi dans les services qui ont soit des revenus plus faibles, soit des revenus beaucoup plus, des emplois beaucoup plus instables. Et cette instabilité nourrit aussi une inquiétude et une insatisfaction par rapport à la situation des parents qu'on a connue dans une grande stabilité d'emploi, avec des emplois aussi relativement bien rémunérés. Donc je pense que ces deux phénomènes aussi génèrent les résultats qu'on voit dans votre sondage.
Natacha, on a 1 minute 50. On se demande si on ne va pas revenir à 1 euro égale 1 dollar. Est-ce que finalement c'est dramatique ou pas ?
Déjà, c'est un peu logique si on prend la parité des taux d'intérêt, bête et méchante, c'est-à-dire qu'on voit que la normalisation de la politique monétaire aux États-Unis est plus rapide et plus marquée que celle qu'on a en zone euro, pour des bonnes raisons d'ailleurs,
non, mais c'est très logique,
en partie.
C'est très
logique. Et puis, deuxième point, quel est le sujet ? 1 pour 1 au lieu de 1,05, 10. Alors ça change.
Plus l'euro est bas, plus l'inflation est renforcée. C'est ça l'idée en fait.
C'est sûr, mais il faut voir aussi ce que ça implique en matière de dynamique de croissance, ce que ça implique. Je pense à la politique monétaire. La politique monétaire qui s'ajuste très vite, ça a de grandes chances aussi, peut-être pas forcément de créer une récession, mais en tout cas, ça tend à ralentir l'activité économique et donc à avoir des impacts très directs sur le dynamisme économique local domestique. Donc ça, c'est un point important. Il y a des questions de compétitivité aussi, il ne faut pas l'oublier. On s'est plaint tout le temps que finalement, ce qu'on produit, ça coûte cher, etc. Difficulté à exporter, à part les Allemands. Tout ça est en train de changer fondamentalement. Je pense que l'équilibre des chaînes de valeur au sein même de la zone euro et entre les pays membres, la capacité d'exportation et la position de l'Europe dans les chaînes de valeur change. Et donc la parité, le mécanisme de la parité va changer aussi. Pour un pays comme la France, c'est moins entre guillemets grave que pour des pays qui ont des gros déséquilibres des soldes extérieurs, que sont l'Allemagne ou d'autres pays.
Des déséquilibres dans l'autre sens, vous voulez dire.
Dans l'autre sens, oui. Pour l'Allemagne, et puis des déséquilibres négatifs.
Merci Natacha Valla aujourd'hui, Stéphane Carcillo, Gaël Sliman donc pour le baromètre Odoxa avec Abeille Assurance. On se retrouve demain à 9h et nous serons donc en direct d'Aix-en-Provence.